Bonjour, bonjour et bienvenue à l'épisode numéro 2 du podcast Pas mon genre du pôle Société civile de la Cité du genre. Moi, c'est Sandy Bakshi, le responsable du pôle Société civile. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Anne Delabre et Anne Crémieux, un duo désormais bien connu dans les fans du septième genre, le Ciné-Club qui défie les normes, dont vous retrouverez le programme en ligne. Chaque séance est présentée par un invité. J'ai moi-même été invité pour présenter Young Soul Rebels et je peux donc témoigner du succès de ces séances presque toujours à guichet fermé. Anne Delabre a créé le septième genre et Anne Crémieux l'a rejoint le premier CA de l'association quand elle a été fondée avec notamment Nicole Fernandez-Ferrer, à l'époque directrice du Centre Simone de Beauvoir, les journalistes de cinéma Grégory Alexandre et Nicolas Maille et quelques autres au fil des années. Merci beaucoup Anne Delabre et Anne Crémieux d'être sur Pas mon genre. Donc je vais vous poser ma toute première question qui concerne votre parcours respectif, si vous voulez le détailler. Merci beaucoup.
Merci de nous avoir invités. Tu veux commencer Anne ou tu veux que je commence?
Vas-y.
Alors, mon parcours qui m'a amenée jusqu'au septième genre, c'est que j'étais étudiante d'abord en économie, puis en anglais et en cinéma. Et j'allais beaucoup, beaucoup au cinéma. Et j'ai finalement fait une thèse d'anglais sur le cinéma noir américain. Et donc, j'étais cinéphile, j'allais beaucoup au cinéma. Et je faisais ma recherche sur le cinéma. Et c'est comme ça que je pense on a dû se rencontrer pour la première fois au tango. On essayait de retrouver où est-ce qu'on s'était vu la première fois. Et donc, par affinité pour le cinéma, on est devenus amis. Et quand Anne a commencé le septième genre, j'étais là. Et ensuite, quand on en a fait une association, j'ai accepté bien sûr sa proposition de faire partie du CA parce qu'on s'entendait très bien et qu'on avait envie de promouvoir des films rares et qui nous intéressaient autour des questions de genre et de sexualité.
Merci pour l'invitation. Comme l'a dit Anne, c'est vrai que c'est avant tout une histoire d'amitié et de cinéphilie. En ce qui me concerne, j'ai pas tout à fait le même parcours. J'avais également fait des études d'économie puis de journalisme, journaliste en presse écrite pendant plus de 15 ans. Et ensuite, une réorientation vers la programmation cinéma, les conférences, l'histoire du cinéma avec une passion pour les archives, le cinéma de patrimoine, et les questions de genre et de sexualité minoritaire. Le Ciné-Club de 7e genre est né d'une rencontre avec le nouveau directeur de l'époque en 2013, qui s'appelle Fabien Houy, et qui a racheté le cinéma à Jean-Pierre Mocky, qui l'avait tenu pendant un petit moment. Et Fabien m'a laissé carte blanche pour démarrer ce ciné-club, donc en avril 2013, avec deux séances test qui ont tout de suite bien marché. Et depuis, l'aventure continue, donc maintenant depuis plus de 13 ans. L'idée étant de faire découvrir ou redécouvrir des films rares, voire très rares, voire inédits, autour des questions de genre et de sexualité minoritaire. Et je dois remercier Anne en particulier pour avoir, outre animé avec moi plusieurs séances autour du cinéma anglo-saxon, avoir fait un travail monumental de sous-titrage d'un certain nombre de films inédits en France. Et sans elle, on n'aurait pas pu faire un certain nombre de séances. Merci. Et puis, c'est vrai qu'on est un duo très complémentaire parce qu'on se connaît bien, on s'aime beaucoup. Moi, je suis plus spécialiste du cinéma français et européen, et Anne, anglo-saxon, États-Unis, etc. Donc, on est en plus hyper complémentaire au niveau de nos domaines de prédilection.
Oui, puis en plus, dans le premier groupe, on avait la chance d'avoir Nicole, elle connaît tout le cinéma féministe du monde entier. En tout cas, c'était aussi, oui, un groupe de gens. Et puis même parfois, petit à petit, on a eu des suggestions par des spectateurs et spectatrices. Alors, bon, souvent, c'est des suggestions qu'on peut pas forcément, voilà. Qu'on peut pas forcément mettre en œuvre parce que le film n'est pas disponible, il n'y a pas les droits, etc. Mais une ou deux fois, quand même. Et aussi des films dont on se disait que tout le monde l'avait vu, que ça n'intéresserait pas les gens de le revoir. À force qu'on nous dise, ah, mais pourquoi vous passez pas tel film? On les a passés. Alors qu'ils nous semblaient peut-être pas assez rares, pas assez. Mais bon, il faut faire plaisir à son public. Donc, et en passage, se faire plaisir à soi. Donc, c'était un groupe, c'est toujours un groupe de gens qui, grâce à Anne quand même, hein, il faut dire, si t'étais pas là, que.
Grâce à toi aussi, parce que, encore une fois, le septième genre, comme je te l'ai déjà dit, n'existerait plus aujourd'hui si t'étais pas là non plus. Pour revenir sur le groupe initial, effectivement, tout au départ, moi, j'étais seule à organiser le ciné-club avec donc le directeur du Brady, ceci entre avril 2013 et janvier 2015, où là, je me suis dit que vraiment, il fallait créer une association. Et ce CA fondateur, où nous étions 8, ça s'est avant tout fait par affinité élective, avec des amis qui étaient intéressés par le projet, donc il y avait ou des compétences en cinéma ou une affinité avec le cinéma d'une manière ou d'une autre, avec des compétences complémentaires. Effectivement, on citait Nicole Fernandez-Ferrer, qui est spécialiste en particulier du documentaire, des questions féministes, Grégory Alexandre qui travaille chez Unifrance, voilà, d'autres gens qui étaient aussi avec des compétences spécifiques. Et sans être au CA, on a un certain nombre de personnes, dont Mathieu Leric, spécialiste des cinémas d'Europe centrale et orientale, qui nous a rejoints et qui nous a suggéré des films, est intervenu et aussi soutient l'association. Voilà, on a eu un certain nombre de personnes et on a toujours des gens qui nous soutiennent et qui nous suggèrent, comme tu le disais, des films qu'on peut parfois ou pas diffuser. Le plus souvent, c'est compliqué parce que il y a une question de droit, une question de copie, une question de sous-titrage. Et le public, parfois, c'est vrai, ne s'en rend pas compte en nous disant « Mais pourquoi vous diffusez pas ça ? On aimerait bien le voir, mais moi, j'ai des listes entières de films qu'on ne pourra jamais diffuser ou tout au moins pas tout de suite. » Parce que parfois, on a des bonnes surprises. J'ai en tête quelques films qui ont mis plus de 5 ans, parfois, à être diffusés parce qu'on a fini par retrouver les droits, parce que les droits étaient de nouveau disponible, on a trouvé une copie restaurée, etc., etc. C'est un vrai travail d'enquête qui est très chronophage. Ça aussi, les gens ne s'en rendent pas toujours compte. C'est à la fois passionnant, mais ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et plus on cherche dans la rareté, évidemment, ce qu'on aime faire, et dans l'inédit, plus ça peut être long. Voilà. Mais c'est ce qui fait que le public est fidèle et apprécie, je crois, nos séances, parce qu'on essaie de se démarquer un petit peu par rapport à programmation plus classique.
Merci de vos réponses, c'est tout à fait passionnant. Alors je vais continuer avec la passion de cinéphilie, hein, le mot a été prononcé, le cinéphilie, et puis la liaison avec le genre et sexualité minoritaire, dite minoritaire. Anne Crémieux a aussi prononcé le mot féministe, donc je vois le septième genre comme alliance cinéphilie, genre, sexualité, dite minoritaire, le féminisme, etc. Donc ma question se pose, la question que je voudrais poser, cette trajectoire que vous avez, pouvez-vous nous raconter du pourquoi et du comment? Pourquoi vous avez monté cette association de septième genre?
Alors, en ce qui concerne la genèse, bon, déjà au départ, j'ai toujours été cinéphile et j'avais une nostalgie des ciné-clubs étudiants et je souhaitais en recréer un depuis très longtemps et l'occasion s'est présentée avec le Brady. Après, à Paris, alors à l'époque, en 2013, on m'avait dit « Oh là là, un ciné-club, c'est ringard !» Alors qu'aujourd'hui, ils fleurissent un peu partout dans les cinémas, donc ça me fait beaucoup rire. Ensuite, à l'époque, on parlait encore des questions gays et lesbiennes, très peu des questions LGBTQI+, et encore moins des questions de genre. Alors qu'aujourd'hui, on voit ça partout aussi. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'était un petit peu en décalage. Et je m'étais dit, justement, d'avoir une spécialisation et d'avoir un créneau, un petit peu une ligne, ce que j'appelle une ligne éditoriale en jargon journalistique, pouvait justement nous permettre d'avoir un public aussi plus fidèle et intéressé par les mêmes questions qui nous passionnaient aussi, tant Anne que moi et les autres personnes de l'association. Et c'est vrai que moi, j'avais travaillé déjà à l'époque, et je continue, à travailler pour le festival de films LGBT de Paris, Chéri Chéri. Je leur avais déjà proposé des séances de patrimoine à l'époque, qui avaient très bien marché dans le cadre du festival. Et plusieurs spectateurs, spectatrices étaient venus me voir en me disant « Mais pourquoi vous n'en faites pas tout au long de l'année ?» Et de là est née un peu cette idée du ciné-club, je dois dire. Je venais également de publier avec Didier Roth-Bétony un livre sur l'homosexualité dans le cinéma français, donc en 2009. Et on avait un corpus de films de plus de 350 titres. Et je m'étais dit, bah, c'est bien gentil de parler de plein de films, mais si les gens peuvent pas les voir, c'est quand même dommage. Et donc, c'était aussi un prolongement du livre de proposer un ciné-club qui permettait de prolonger le débat et de permettre une interaction avec les spectateurs, spectatrices, les lecteurs, lectrices éventuelles du livre. Et aussi, l'idée avec le septième genre, c'était de lutter contre, bien sûr, les discriminations et d'avoir ce travail pédagogique, mais également d'éducation à l'image. C'est-à-dire que le film, c'est un support aussi d'échange de débat, parce que l'idée, c'est de pas faire juste un ciné-club déjà LGBT, QI++, mais un ciné-club qui aborde les questions de sexualité minoritaire au sens large du terme et de genre, c'est-à-dire aussi de transgression des normes de genre et pas simplement LGBTQI+, d'une part, et d'autre part, de ne pas s'adresser uniquement à un public conquis d'avance et d'un public communautaire, mais aussi de l'élargir à un plus large public par le biais de la cinéphilie, qui pourrait du coup se trouver sensibilisée à des thématiques qui, a priori, ne les intéressaient pas forcément au départ. Et 13 ans après, c'est peut-être ce qui me fait le plus plaisir, c'est de voir la diversité du public, tant au niveau de l'âge, ça va des étudiants en cinéma et en question de genre jusqu'aux retraités, en passant par des publics actifs, des gens qui sont parfois très pointus du monde du cinéma, des universitaires, des scénaristes, des réalisateurs, mais simplement aussi un public curieux de voir d'autres films, de découvrir des films qu'ils ne connaissent pas et qui viennent avec, entre guillemets, le label 7e genre en disant « je viens à une séance du 7e genre ». Je sais d'une part, je vais passer une bonne soirée dans la mesure où, avant tout, quand même, on se fait plaisir. On découvre en chambre un film. Ensuite, on échange et l'idéal, c'est quand même de se dire, ça fait réfléchir. Et en sortant, je me dis que j'ai peut-être avancé dans une certaine réflexion par rapport à des sujets de société et en même temps, en ayant passé un bon moment. Voilà.
Super. Et c'est vrai que quand tu as fondé le 7e genre, il y a un côté précurseur parce qu'à l'époque, le 7e genre, tout le monde pense au 7e art et au genre de cinéma, c'est-à-dire les genres, les comédies, etc. Et le public non LGBTQI, etc., et même, je dirais, presque tout le monde en 2013, le 7e genre, ça ne fait pas forcément penser aux questions de genre et de sexualité. Oui. Alors qu'aujourd'hui, bien sûr que si. Et aussi parce qu'à l'époque, on pouvait éventuellement dire le troisième genre, comme on penserait au troisième sexe, mais sept genres, ça paraissait complètement impossible. Alors qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas faire la liste des sept genres, s'il y a sept genres, mais ça paraît plus aussi excentrique d'imaginer qu'il y aurait plus que trois genres, par exemple, ou plus que deux genres, évidemment, mais même plus que simplement le troisième sexe, etc.
Vous répondez à une partie de que cherchez-vous à faire avec le septième genre, par exemple le titre septième genre. Mais moi, je suis très intéressé, si vous voulez bien, par la sexualité, toutes sortes de sexualités dont vous avez parlé, et pas seulement les sexualités LGBTQI, si vous voulez, mais justement parler de sexualité et de genre. Est-ce que vous avez d'autres pistes pour nous faire réfléchir à cette notion de sexualité au pluriel, par exemple ?
Mais c'est arrivé qu'on passe des films où les gens nous disent « Mais pourquoi vous passez ça au septième genre ?»
Très bien.
Voilà, oui. Ben oui, notamment des films qui abordent ce que je disais, les transgressions de normes de genre. C'est-à-dire des films où on voit, par exemple, des femmes qui vont, tout au long du film, avoir des comportements, des actes ou une manière d'être et d'agir qui transgressent les normes traditionnelles de genre. Je pense, par exemple, à un film qui s'appelle « Pas très catholique » de Tony Marshall, qui est un film français avec Anémone, une vedette populaire, qui, en fait... Alors,
il se trouve qu'elle joue le rôle d'une femme détective qui est bisexuelle, mais finalement, ça apparaît très peu dans le film, c'est vraiment pas le sujet principal, et c'est d'ailleurs en ça que c'est important aussi. Mais surtout, elle a un comportement qui transgresse les normes de genre, c'est-à-dire, elle est détective à la mode un peu des Bogart dans les années 50, dans les films noirs, et surtout, elle se retrouve, enfin, on découvre au fil de l'histoire qu'elle a abandonné son fils, son bébé. Donc déjà, ça, c'est hyper tabou. Et ensuite, son fils veut la retrouver. Et en fait, bon, elle a un comportement qui n'est pas du tout celui qu'on attend d'une mère, d'une femme qui a un enfant. Et en ça, ça transgresse vraiment les normes de genre. Dans un tout autre genre aussi, on a passé un film beaucoup plus ancien, 1943, qui s'appelle « L'éternel retour de Jean Delannoy » avec Jean Cocteau et Madeleine Sologne, voilà. Et en fait, dans ce film, avec Jean Cocteau au dialogue d'ailleurs, c'est une adaptation moderne de Tristan et Isolde. Et dans L'éternel retour, en fait, Jean Marais joue un jeune premier qui, en fait, n'a pas du tout le comportement typique de l'homme viril de cette époque-là dans le cinéma contemporain des années 30-40. Et en fait, il a finalement un rôle d'homme passif. Et c'est la femme qui, en fait, est active. Et en fait, on inverse les rôles traditionnels homme-femme dans ce couple. Et en ça, c'est une transgression des normes de genre. Effectivement, un certain nombre de personnes nous disent « Mais c'est pas du tout LGBT comme film. » Et voilà. Et c'est typiquement un exemple de film qui n'est pas LGBT, mais qui concernait le septième genre. Et par ailleurs, on a pu aussi aborder des films qui, au-delà d'une dimension d'homosexualité ou de transgenre, pouvaient aborder aussi des questions BDSM, par exemple. Des questions... voilà, je pense à Noir et Blanc de Claire Dever, par exemple, adapté Tennessee Williams, du masseur de Tennessee Williams. On est beaucoup plus dans la question du sadomasochisme, au-delà de la question de l'homosexualité, par exemple.
Et quand tu dis que L'éternel retour, c'est pas LGBT, en même temps, quand tu vois le casting, bien rien sûr. Que ça dans l'histoire du cinéma, c'est intéressant. Je dirais qu'il y a une autre instance ou un autre type de film où parfois le public est un peu dérouté, qui est quand on passe des films qui ont fait ou non polémique à l'époque, qui ont été oubliés pour la plupart, et quand on les revoit aujourd'hui, qui paraissent très homophobes, très ambivalents, qui ont une vision de l'homosexualité quand même, ou qui t'es pas très à l'aise, tu te dis mais attends, mais finalement que dit le film là? Et je pense en particulier à The Killing of Sister George, qu'en plus avait été présenté par Richard Dyer avec une présentation extraordinaire où il nous avait fait un cours de cinéma sur ce film. Typiquement, c'est un film où on est mal à l'aise du début à la fin, parce que oui, par certains aspects, c'est vraiment transgressif, avec des femmes qui vivent ensemble, qui n'en ont pas honte, qui vont faire des soirées drag king, et puis en même temps, une relation perverse qui reproduit l'oppression des femmes, quelque part. Le personnage principal prend une femme très jeune, qu'elle manipule, qu'elle maltraite, etc. quoi.
Très bien. Merci beaucoup. Donc, vos réponses m'amènent à vous poser une double question. Donc, je vais commencer par une question, une première question sur... vous avez parlé de Richard Dyer et tout ça. Donc, la programmation, comment choisissez-vous la programmation des films? Et à la suite de cette question, j'aimerais bien vous poser la question aussi, si vous voulez bien, sur les polémiques. C'est-à-dire, je pense au The Crying Game, par exemple, qui a suscité une polémique en Irlande, ou le film Fire, le film lesbien qui a suscité une polémique en Inde, qui a été interdit pour un certain temps. Donc, comment gérez-vous ces polémiques? Est-ce que vous faites attention à ne pas programmer des films un peu polémiques? Notamment, c'est toujours la question de sexualité, hein, on est toujours là-dedans. Effectivement, les questions sont teintées par mes propres intérêts, mais on est toujours sur cette question de sexualité qui dérange, on va dire ça. Donc, moi, j'aime bien cette approche approche de sexualité là, au lieu de parler de l'homosexualité, mais juste la question de sexualité qui dérange. Donc, est-ce que vous faites attention quand vous programmez des films, etc., ou est-ce que ça suscite en vous des quelques, je sais pas, des discussions entre vous, les membres de l'association qui disent oui ou non, que tel ou tel film on peut programmer ou pas, voilà.
Alors, effectivement, notre préoccupation est aussi les sexualités qui dérangent, donc par définition, qui dérangent, ou qui défient les normes, qui abordent les marges, et on ne s'interdit rien. C'est-à-dire que le principe, ça dès le départ, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ce qu'on déteste le plus, alors là je vais rejoindre Laure Murat, toutes les époques sont dégueulasses, c'est que cette question de la censure, moi je suis absolument contre. C'est-à-dire on peut pas faire tout et n'importe quoi, bien entendu, on va pas balancer un film comme ça sans recontextualisation, sans débat derrière, mais je pense que c'est important de montrer les films, y compris les plus polémiques, parce que c'est pas en les cachant qu'on va cacher le problème. Donc, là où on fait vraiment attention, c'est de présenter le film dans un certain contexte, avec une invitée avec lequel le débat sera enrichissant, intéressant, Richard Dyer étant l'exemple vraiment le plus emblématique, et The Killing of Sister George aussi, et ça, c'était formidable. On a pu le faire également en proposant parfois des films un petit peu justement de genre, avec un certain second degré aussi, parce qu'on trouve ça important. Par exemple, les films un petit peu des studios Hammer, les films de vampires lesbiens des années 70. Génial. On a passé aussi bien Dr. Jekyll et Sister Hyde sur les questions trans avant l'heure, dans les années 70, ou The Vampire Lovers, qui pouvaient être considérés comme transphobe, comme lesbophobe, mais avec en débat quelqu'un qui s'appelle Nicolas Stanswyck, qui est tout à fait spécialiste de ces questions-là, et qui nous a bien expliqué justement cette recontextualisation indispensable pour ne pas faire d'anachronisme aussi. C'est-à-dire que le film, il est sorti dans les années 70, dans un certain circuit de salle, pour un certain public. Aujourd'hui, on le voit, on est en 2000, les années 2000 et quelques, dans un circuit qui n'est plus du tout le même, dans un contexte de cinéma, de questions de genre et de sexualité. Et c'est hyper important, je trouve, et ça a toujours été une préoccupation à la base, c'est-à-dire de ne pas avoir une approche de critique de cinéma par rapport à l'esthétique du film. Ça, c'est pas trop notre préoccupation, même si on en parle bien sûr au débat, mais c'est vraiment ce qu'on appelle les cultural studies, avec mon très mauvais accent anglais, désolé, mais sur recontextualiser l'époque, le contexte politique, économique, social, et de dire qu'un film qui a pu être reçu de telle manière à telle époque, aujourd'hui avec 10, 20, 30, 40 ans de recul, c'est hyper important de le revisiter. Ça, c'est vraiment ce qui nous préoccupe avant tout.
Le contexte de réception fait toute la différence. C'est-à-dire, est-ce qu'on a montré Cruising ?
Alors, on l'a montré, non pas au septième genre, parce que c'était trop connu pour nous, mais on l'a montré en hors les murs, parce que le septième genre fait de hors les murs des cartes blanches dans différents contextes, que ce soit à Paris, en région. Moi, j'ai présenté, par exemple, Cruising à Lille l'année dernière, dans le cadre d'un ciné-club totalement mainstream, et avec un public donc totalement mainstream, et c'était très intéressant aussi. On l'avait proposé aussi à Paris, dans l'amphithéâtre de l'Hôtel de Ville, dans le cadre d'une exposition avait eu lieu en 2019 sur le cinéma LGBT, et donc pareil, un très grand public. On intervient aussi, c'est vrai que le 7e genre peut intervenir devant un public de scolaires, d'universitaires, Maison d'arrêt des femmes de Fleury-Mérogis, on l'a fait aussi, dans des bibliothèques municipales partout en France. Je trouve que c'est intéressant aussi d'aborder différents types de films avec différents types de publics.
Et donc, typiquement, Cruising, qui a été presque boycotté avant même sa sortie, puisque sur le tournage même, il y avait des manifestations pour empêcher l'adaptation du livre et la représentation de l'histoire de base, c'est des meurtres en série par un homosexuel, lui-même homophobe, qui tue des homosexuels parce qu'il se déteste lui-même. Bon, pardon, j'ai spoilé le film, mais si on lit le résumé, Et en fait, le film a été reçu comme étant homophobe. Le réalisateur s'en est toujours défendu. Et aujourd'hui, il a une valeur, premièrement, parce que ce n'est pas du tout pareil de le voir dans un ciné-club une fois et d'avoir une sortie nationale avec des gens très différents qui vont voir le film. Et il y a eu des attaques en copycat en réaction au film. Bon, ben aujourd'hui, quand on montre un film comme ça dans un ciné-club, on n'a pas ce risque, ça n'a rien à voir. Et surtout, c'est un film qui a été filmé dans les années 80, dans les quartiers gays, dans les boîtes gays, avant l'arrivée du sida. Et c'est presque un documentaire, en fait. Et, et en plus, quand on regarde le film de manière beaucoup plus détachée que les gens à l'époque qui étaient, qui risquaient, enfin, qui étaient en danger, en fait, à cause de ce film. Quand on le regarde aujourd'hui en tant que cinéphile, eh bien, on voit l'ambiguïté du personnage principal et le fait que ça lui plaît, en fait, ce flic en civil, en couverture. Il est attiré par le milieu gay. Ben, à l'époque, les critiques l'avaient quasiment pas relevé. Et c'est ce que disait Friedkin quand il défendait son film. Il disait, mais attendez, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça le film que j'ai fait. Et aujourd'hui, on voit le film très différemment. Après, défendre que ce film n'était pas du tout homophobe à l'époque où il est sorti, moi, je trouve ça complètement absurde. Friedkin, je sais pas dans quel monde il vivait pour penser qu'on peut faire un film comme ça sans que ça ait des conséquences négatives. Mais bon, bah, peut-être que c'était un artiste qui vivait sur sa planète. En tout cas, c'est un peu comme ça qu'il s'est défendu.
Comme beaucoup d'artistes, d'ailleurs. Mm-hmm. Je voudrais vous poser une dernière question et après, on pourra parler de programmation future l'espace où vous êtes à Paris pour que les gens puissent venir. Donc, par rapport à la réception, donc je parle de la réception de clubs de septième genre, vous avez quand même un public assez averti et un public qui vous pose des questions. À la fin, je sais qu'il y a des débats. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de la nature de ces débats en gros, c'est-à-dire est-ce qu'il y a eu parfois des débats un peu polémiques ou autres? Je vois alors, que vous souriez.
Le public, donc, effectivement, est très fidèle. On a un noyau dur, vraiment, de gens qui viennent, reviennent. Ça fait hyper plaisir. Et on a aussi un public nouveau qui vient, parfois à certaines séances, pas à d'autres. C'est vrai que les réseaux sociaux, c'est impressionnant de voir l'impact parce que nous sommes une toute petite association, absolument pas subventionnée. Enfin, voilà, on n'a aucun moyen financier. Donc, on ne peut exister que parce qu'on a un site internet qui est quand même relativement fourni. On a accès à l'actualité, mais aussi à toutes nos archives depuis 13 ans. Et surtout, bon, on a une page Facebook, bien sûr. Maintenant, Facebook, c'est un peu dépassé, mais on la garde quand même. Et le fait d'être arrivé sur Instagram, par exemple, a beaucoup rajeuni le public, typiquement. On a aussi une newsletter pour les gens qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, et je les comprends aussi. Et en fait, ce qui est intéressant avec le public, c'est que les débats sont toujours très animés. Les gens restent après la séance, pourtant c'est un lundi soir, souvent il est déjà 22h30, 23h, et le débat peut durer jusqu'à minuit sans problème. Les gens sont vraiment avides d'échanger, et ça c'est agréable de se dire que malgré les plateformes, tout ça, il y a un vrai plaisir d'être en salle, plongé dans l'obscurité avec un grand écran, et ensuite d'échanger, c'est une vraie expérience collective. Et les gens peuvent à la fois faire des remarques, poser des questions aux invités, mais parfois aussi, il y a des échanges qui se font entre spectateurs, entre spectatrices, et ça, c'est aussi très intéressant. Il y a parfois polémique. Alors, finalement, peut-être moins que ce que je pouvais attendre, y compris sur des films un petit peu touchy. Finalement, il n'y a jamais eu de vraiment gros scandale, parce que je pense que les gens viennent en se disant « Je viens au septième genre, je sais à peu près à ce quoi je vais m'attendre et on est entre personnes averties et même s'il y a d'autres personnes qui vont débarquer sans être au fait des choses, je pense qu'il y a suffisamment d'écoute et d'échanges pour que les gens même pas d'accord puissent dialoguer sans s'invectiver, ce qui est quand même, je trouve, essentiel. Et j'ai notamment souvenir de quelques séances, notamment une, tu parlais de The Killing of Sister George, c'était très intéressant, ainsi que l'autre aussi auquel je pense, c'est The Vampire Lovers que j'ai cité, où dans la salle, on va un certain nombre de femmes très militante féministe, lesbienne radicale, qui était venue et avait été relativement virulente sur les questions par rapport à l'homophobie du film, la lesbophobie du film. Et l'échange avait été assez houleux, mais voilà, ça s'était tenu pendant toute la soirée, etc. Et à ma très grande surprise, à la fin de la séance, j'ai un souvenir très précis d'une femme qui avait été particulièrement virulente et qui est venue à la fin me voir. Et je me suis dit, oulala, je vais me faire incendier. Et elle est venue en me remerciant pour la soirée, la séance. Et là, je me suis dit, j'ai gagné. C'est-à-dire
Oui, parce qu'en fait, tu accueilles, on voilà. accueille la, retour, le débat. Et ça ne nous dérange pas du tout que les gens expriment. Parce que c'est le but, en fait. Le but, c'est aussi de comparer aujourd'hui, hier, de comparer les représentations, on a souvent l'impression qu'on n'a pas avancé. Ben, moi, je trouve des fois, ça fait du bien de voir ce qui se passait il y a 30 ans. Et on se dit, oui, bon, bah, quand même, on a un peu avancé.
Oui, et puis ça me conforte dans l'idée que plutôt que de s'affronter de manière stérile entre je suis pour, je suis contre, c'est nul, c'est scandaleux, enfin tout ce qu'on voit justement sur les réseaux sociaux qui ont tendance à tout simplifier, le tout noir ou tout blanc, la vie n'est jamais tout noir et tout blanc. Et nous sommes des militants de la nuance et du dialogue, y compris et surtout entre gens qui a priori ne sont pas d'accord. Et malgré tout, eh bien, on peut garder ses convictions, mais simplement on n'est pas obligé de se taper dessus, de censurer l'autre. Et c'est un, enfin, à chaque fois, c'est un moment, un espace qu'on essaie de garder comme un espace de dialogue. Et je pense que dans le monde actuel, c'est plus que jamais nécessaire.
Et tout à l'heure aussi, tu nous demandais si on hésitait parfois à montrer certains films, ce serait trop polémique. Et Anne a répondu que on contextualisait, etc. Et j'ajouterais qu'on le fait dès la présentation de la séance, dès la publicité en fait pour la séance. C'est-à-dire que on écrit les résumés pour ne prendre personne au piège. Mmh. Si y a un film par exemple qui peut être gênant qui peut être malaisant du point de vue du racisme, par exemple, on va le mettre dans le résumé. Mmh. Parce que on assume complètement qu'on va montrer ce film et on ne veut pas que des personnes racisées se retrouvent prises au piège, en fait. Parce que ça, c'est quand même le propre de la posture des minorités au cinéma. Et c'est aussi pour ça qu'on va au septième genre. C'est parce qu'on sait qu'au septième genre, c'est un endroit où on ne va pas. Bon, ça peut toujours arriver, mais on ne va pas se retrouver face à un produit culturel pour lequel on a payé et qui, tout d'un coup, vous insulte, en fait. Ce qui arrive, hein, je veux dire, moi, ça m'arrive régulièrement en tant que femme, en tant que... On va au cinéma et puis, bah, tout d'un coup, il y a une réplique. Donc, on essaye vraiment d'éviter ça, mais sans se censurer.
Voilà.
C'est-à-dire, si ça doit... Ah, moi, je me rappelle avoir écrit le résumé de Sister George. Bon, bah, si tu venais voir le film, tu étais prévenu quand même de ce à quoi. Et puis, c'est aussi des films d'une autre époque. Et là, on parle d'homophobie dans le passé, mais on a aussi passé, je me souviens, le film muet Salomé, qui date de 1922. Voilà. Ouais. Et ben là, je veux dire, tu es quand même un peu scié. Tout d'un coup, tu te dis, quand tu lis Oscar Wilde, et tu te dis... Ah ouais, non, mais c'était vraiment comme ça. Avant la montée du nazisme, cette espèce de liberté artistique qu'il pouvait y avoir dans un monde qui était quand même extrêmement... Les gens étaient quand même très placardisés. Faut pas du tout idéaliser. Mais quand même, cette production, c'est étonnant à quel point c'est quimpe, à quel point c'est vraiment explicitement gay, au sens large du terme. Et donc aussi se dire que ben les droits LGBT c'est des avancées et des reculs et que on n'est pas à l'abri quoi
comme les droits des femmes.
Merci beaucoup. Je pense que ce serait bien que vous nous dites l'adresse de votre site internet. Je le mettrai aussi
en écrit. Alors, c'est le7e genre.fr.
D'accord.
Donc, tout est indiqué. Voilà, nos archives, nos actualités. On peut s'abonner à une newsletter également. On peut nous soutenir, c'est-à-dire l'adhésion à l'association n'est absolument pas obligatoire pour venir, hein, bien loin de là. Mais voilà, c'est notre seule source, en fait, de financement. On s'autofinance entièrement. On préfère être pauvre mais libre, comme j'ai dit, plutôt que d'être pieds et poings attachés. Justement, on garde toute liberté à tout point de vue, y compris en programmation notamment. Et sinon, sur les réseaux sociaux, on a une page Facebook, le 7e genre, on a un compte Instagram. Voilà.
Et le compte Instagram pour les jeunes, je pense que c'est...
C'est @le7e genre.
Très bien.
Tout simplement. Si on tape le 7e genre, avec le chiffre 7, je précise.
Oui, c'est le 7e genre.
Oui. Voilà.
Et on est les seuls à s'appeler comme ça.
Je
donc,
crois. Oui,
on
je
nous retrouve assez facilement.
Oui, normalement, on est... Voilà. Et sinon, au niveau de la programmation, c'est vrai que depuis l'année dernière, là, c'est vraiment une petite envie personnelle. Étant passionnée de films rares et d'archives, j'ai parfois été frustrée de ne pas pouvoir programmer des films que j'aimais beaucoup et que j'avais envie de faire redécouvrir, mais qui n'étaient pas strictement dans une thématique 7e genre. Et donc, le 7e genre a désormais une extension qui s'appelle « Retour à l'écran » et qui propose des films qui ne traitent pas directement de questions de 7e genre, mais qui quand même se prêtent à un débat, à un échange, parce que ça, j'y tiens énormément, et qui en général abordent sinon une thématique féministe, tout au moins une thématique de société qui nous tient à cœur. Et par exemple, pour les séances à venir... après avoir diffusé, pour le coup, encore un film très polémique en janvier 2026, « Looking for Mr. Goodbar » de Richard Brooks, avec Diane Keaton, extraordinaire, et qui est un film, justement, qui a fait polémique. La prochaine séance sera lundi 23 mars, à 20h30, toujours au cinéma Le Brady, 39 boulevard de Strasbourg, métro Strasbourg-Saint-Denis.
À Paris.
À Paris. ce film, c'est « Wives ». 1975, Anja Breien, qui est une cinéaste norvégienne absolument inconnue en France, dont les films n'ont jamais été sous-titrés en français d'ailleurs, et qui là est redécouverte grâce à Malavida Film, un distributeur qui fait un gros travail autour de cette cinéaste. Et on va découvrir donc Wives en avant-première, de ressortie en copie restaurée. Et ce film est une réplique féministe à Husband de Cassavetes. Voilà. Pour vous donner envie de venir le voir. Et sinon, le 7e genre aime bien aussi se déplacer. Le Brady est notre port d'attache. Mais là, par exemple, le 5 mai, le 7e genre sera à Lille, au cinéma Le Majestic, dans le cadre d'une invitation au ciné-club Mes films de chevet, qui est le ciné-club de l'association Plan Séquence, qui organise notamment le Festival de films d'Arras, qui est un très bon festival en novembre. Et donc là, je présenterai The Cellulite Closet, grand classique. Qui justement évoque les représentations du cinéma LGBT dans le cinéma hollywoodien. Et voilà, donc ça sera à Lille. Et sinon, le 7e genre va aussi programmer un autre film qui est en cours d'élaboration, enfin au niveau de la programmation pour mai-juin. Il y aura également des interventions, notamment, je pense, en septembre, en bibliothèque municipale, notamment en bibliothèque James Baldwin, la nouvelle bibliothèque du 19e arrondissement Place des Fêtes, qui a notamment un fonds LGBTQI+, très développé. Nous participons également tous les ans à la programmation Patrimoine-Matrimoine du Festival de films Chéri Chéri, qui a lieu la deuxième quinzaine de novembre au MK de Beaubourg. Et là, on a déjà des belles pistes de programmation que je ne peux pas encore vous dévoiler, mais qui seront fort intéressantes. Et puis, voilà, au gré des occasions, des invitations, on peut vous proposer des séances donc, au Brady ou ailleurs. Et ça, vous êtes tenus au courant via les réseaux sociaux et notre site internet.
Parfait. Je vous remercie de nous avoir accordé ce temps. On est ravis. Je pense que le public aussi qui nous écoute... Vous allez voir que les gens vont vous suivre sur les réseaux sociaux et sur votre page Facebook, j'imagine. Merci beaucoup. Merci de votre déplacement.
Merci beaucoup, Sandeep.
Merci.
Merci beaucoup, merci.